La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Arsenic, curare, amanite phalloïde, polonium, tous ces éléments ont la capacité de nous faire passer de vie à trépas en un rien de temps. Très tôt, les hommes ont appris à utiliser certaines des substances toxiques qu'ils trouvaient dans la nature, pour la chasse, mais aussi pour se débarrasser discrètement de leurs ennemis. Bien utiliser certaines de ces substances peuvent aussi nous soigner. Alors quels sont les poisons naturels dont il faut se méfier le plus? Comment agissent-ils sur notre organisme et que faire en cas d'intoxication? Aujourd'hui, on s'intéresse aux poisons dans le dossier de La Tête au Carré en compagnie d'un spécialiste de leur histoire, Éric Birloez, et d'un médecin toxicologue, Bruno Mégarban. Cette interview étant rediffusée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Daniel.
À la une de la science aujourd'hui, on se penche sur le sort de l'Antarctique face au réchauffement climatique.
Oui, car dans la revue Nature, cette semaine, une équipe de recherche imagine l'avenir du continent blanc d'ici 50 ans et la débâcle semble certaine si rien n'est fait rapidement. On en discute donc avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte.
Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Fanny Boyon et préparé par Hannibal Wachi.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Deux spécialistes des poisons autour de la table, Bruno Mégarban et Éric Birloez. Bonjour.
Bonjour.
Éric Birloez, dans votre livre « Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs » édité chez Ouest France, on découvre qu'il existe des poisons redoutables pour l'homme dans la nature, produits parfois par des toutes petites bêtes qui ne payent pas de mine, hein, une toute petite grenouille bleu flashy.
Voilà, qui est une petite grenouille colombienne, alors qui a un nom très évocateur, Philobates terribilis. Elle est effectivement terrible parce que la quantité de poison que l'on peut trouver sur la peau d'un seul de ces petits batraciens pourrait tuer jusqu'à une dizaine de personnes. Et d'ailleurs, les Indiens de Colombie avaient l'habitude d'utiliser ce poison pour en enduire la pointe de leur flèche, ce qui est d'ailleurs le premier sens du mot toxique. Toxicon en grec, c'est poison pour pointe de flèche.
Alors Bruno Mégarban, vous êtes médecin réanimateur spécialisé en toxicologie clinique dans le service de réanimation dans lequel vous travaillez. On imagine qu'il y a peu de victimes de flèches empoisonnées. Quels sont les types d'empoisonnement que l'on trouve aujourd'hui ?
Alors exactement, effectivement, les poisons végétaux et extraits des animaux sont heureusement pour nous rares aujourd'hui. Je ne vais pas vous surprendre, mais l'intoxication la plus fréquente en France, c'est l'intoxication par l'alcool, tout simplement.
Ah oui.
Beaucoup de ces patients arrivent parfois aux urgences ivres, voire avec un trouble de conscience important. Alors en réanimation, on a beaucoup plus d'intoxication médicamenteuse, avec les médicaments les plus fréquents dans notre environnement, donc les anxiolytiques, le paracétamol, les analgésiques. Et je ne vais pas vous surprendre en vous disant que l'intoxication qui est la plus mortelle au jour d'aujourd'hui, c'est celle liée aux analgésiques opioïdes. Et récemment, le décès du chanteur Prince a mis en avant cette actualité.
Vous nous direz dans cette émission quels sont les bons gestes à avoir en cas d'intoxication ou d'empoisonnement. On s'intéresse aux poisons et à leur histoire dans La Tête au Carré.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Cap sur le pôle sud, à la une de la science. Aujourd'hui, l'avenir du continent blanc.
À l'extrémité sud de la Terre, les plus vastes océans bordent un continent isolé, l'Antarctique. Ici, le rivage est différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Des bancs de glace s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la mer, cachant la surface de la Terre, se dressant comme une muraille face aux navires qui en approchent. Ces glaciers et ces montagnes couvrent une superficie légèrement supérieure à celle de l'Europe. C'est le continent le plus élevé du monde.
Voilà comment on parlait de l'Antarctique il y a 70 ans. Comment en parlerons-nous dans 50 ans? Le continent glacé du pôle sud souffre du réchauffement climatique, mais dans quelle mesure? Dans un travail de prospective, une équipe de climatologues australiennes et françaises imagine l'état de l'Antarctique en 2070. Leur étude intitulée « Choisir le futur de l'Antarctique » est publiée dans la revue Nature cette semaine, Axel, et on en parle avec l'une des auteurs de cette étude.
Oui Daniel, nous sommes avec Valérie Masson-Delmotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue pour le CEA, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Nous sommes également en studio avec Lorraine Lavocat pour le magazine Reporter.net. Bonjour.
Bonjour.
Alors Valérie Masson-Delmotte, pardon, pour préparer et présenter ces résultats, vous avez choisi de placer le lecteur de la publication dans le futur, en 2070, et vous avez donc choisi de parler des 50 années qui nous sépare de cette date au passé. C'est une figure de style, on en voit rarement dans les publications scientifiques. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ?
On a fait ce choix pour parvenir à mieux aborder les connaissances qu'on a de domaines différents. Parmi les auteurs de cet article, tous lauréats du prix Muse pour leurs recherches sur l'Antarctique, on a des spécialistes de la biologie marine, de la glaciologie, des écosystèmes autour de l'Antarctique, de l'océanographie. On avait deux choix, soit faire une revue habituelle, scientifique, explorer différents scénarios, soit avoir un style plus narratif. Et dans la préparation de cet article, finalement, on s'est placé au moment où nos enfants auront l'âge de nos parents, en 2070, pour regarder finalement à quel point les choix que l'on fait ou que l'on ne fait pas dans la décennie à venir conduisent à des évolutions extrêmement différentes, bien sûr entachées d'incertitudes, mais se mettre dans deux points futurs et remonter les chaînes de conséquences permet de se baser sur les connaissances les plus récentes tout en les partageant avec tous.
J'ai envie de dire allons-y, alors plaçons-nous en 2070 dans le cas où le réchauffement climatique n'est pas contenu et partons en Antarctique. Qu'est-ce que nous voyons, Valérie Masson-Delmotte ?
Eh bien, on voit en fait le traité de l'Antarctique qui cède. Aujourd'hui, l'Antarctique est protégée comme une terre de paix et de science. Si on n'a pas un mode de développement durable qui est sobre en énergie, en particulier en énergie fossile, sobre en ressources, en pression sur les ressources, on va vers un réchauffement planétaire qui s'accélère en 2070, un niveau des mers qui accélère, avec une contribution qui devient de plus en plus importante de l'Antarctique, un réchauffement en Antarctique qui le bouleverse les écosystèmes, un recul important de la glace de mer, de la banquise, mais aussi des plateformes de glace flottantes qui jouent le rôle de bouchons, qui empêchent l'écoulement des glaces accumulées sur le continent. Des eaux qui deviennent corrosives par rapport à la formation des coquilles, des petits animaux marins, des invasions biologiques 10 fois plus importantes qu'aujourd'hui, des salpes qui remplacent le krill, les petites crevettes qui sont aujourd'hui à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan austral. Une présence humaine de plus en plus forte, une exploitation des ressources minières, une exploitation intensive en termes de pêche. Et donc un monde en Antarctique, autour du continent le plus éloigné de nous, extrêmement différent de la situation actuelle.
Lorraine Lavocat.
Alors justement, Valérie Masson-Delmotte, vous parlez de ce qui se passera en 2070, mais une autre étude sur l'Antarctique est parue la semaine dernière aussi dans la revue Nature, qui parle de la situation de l'Antarctique aujourd'hui. On y apprend que depuis 2012, la fonte de l'Antarctique s'est accélérée d'un facteur 3 par rapport à la période 1992-2011. Alors, quelles sont les conséquences déjà visibles de cette accélération de la fonte des glaces ?
Alors, l'Antarctique, c'est une terre de contraste. C'est un des endroits du monde où certaines régions se réchauffent le plus vite. C'est le cas de la péninsule Antarctique, la petite pointe qui est en dessous de l'Amérique du Sud. Mais c'est aussi un endroit où on a des changements de la structure des vents, du réchauffement des eaux de mer. Et donc, il semble que dans certains secteurs à l'ouest de l'Antarctique, on ait un écoulement qui s'accélère et donc qui fait que l'Antarctique, au lieu d'être à l'équilibre, c'est-à-dire un enneigement qui compense le fait de larguer des icebergs, est en train d'atteindre un déséquilibre croissant avec un écoulement qui accélère. C'est peut-être lié à l'amincissement des langues de glace flottantes du fait d'une fonte à l'interface avec l'océan sur lequel ces langues de glace flottent. C'est un résultat qui a surpris les équipes internationales qui ont mis en commun toutes les connaissances existantes par l'importance de cette accélération.
Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'on croit l'Arctique plus sensible que l'Antarctique ? Est-ce que c'est vrai ?
Alors peut-être, avant que vous répondiez, précisons la grande différence. Hein. L'Arctique, on est au pôle Nord, c'est de la glace qui flotte sur l'eau, on est sur de la banquise. Quand on est en Antarctique, côté pôle Sud, il y a un continent avec cette calotte glaciaire très impressionnante, des kilomètres de glace, d'épaisseur de glace sur ce continent. Donc effectivement, les scénarios sont un peu différents pour les deux pôles.
Alors ce qui est différent, c'est le fait qu'aujourd'hui, la région arctique fait l'objet d'une amplification du réchauffement. Il y est déjà 2 à 3 fois plus important qu'en moyenne planétaire. C'est dû en particulier au recul des zones recouvertes de neige, de banquise. C'est un des facteurs de cette amplification. Du côté de l'Antarctique, on a davantage d'inertie parce que c'est un continent couvert de glace, très froid et éloigné des autres régions du monde, séparé par un océan avec son inertie thermique. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est aujourd'hui un continent qui réagit à la fois par, dans certaines régions, un réchauffement peut-être dû au recul de la couche d'ozone dans ce secteur. Mmh. C'est aussi un continent avec des écosystèmes particulièrement fragiles, iconiques, préservés. C'est une forme de patrimoine naturel pour toute l'humanité, cette biodiversité qui est exceptionnelle autour du continent et sur ses côtes. Et donc c'est un continent qui est vulnérable. Il est vulnérable parce que si on ne maîtrise pas le réchauffement climatique et donc les rejets de gaz à effet de serre, une des conséquences directes, c'est l'accumulation d'énergie dans les océans, donc dans l'océan Austral. Et donc même si aujourd'hui on n'a pas une amplification du réchauffement autour de l'Antarctique, une fois que ce réchauffement sera présent, du fait de la grande masse d'eau plus chaude qui va baigner les glaces autour du continent, on ne pourra plus revenir en arrière et on aura des changements irréversibles. Alors ces changements irréversibles peuvent toucher par exemple la perte de banquise, l'écoulement plus rapide de glace du continent qui dans ce cas-là ferait monter inéluctablement le niveau des mers de plusieurs dizaines de centimètres à la fin de ce siècle à plusieurs mètres dans les siècles suivants.
Merci Valérie Masson-Delmotte, il est donc grand temps d'agir. Concrètement, on peut encore agir, hein. C'est le
oui,
message.
La décennie à venir, elle est cruciale et elle est cruciale en termes de trajectoire de développement. Comme je le disais au début, c'est pas simplement une histoire d'émissions de gaz à effet de serre, c'est plus largement la pression qu'on va exercer sur les ressources, par exemple pour l'accès à des protéines marines dans cette région, et c'est aussi l'éducation qu'on va donner aux jeunes générations. Mmh. Parce que l'Antarctique aujourd'hui, c'est une terre de paix et de science parce qu'on a des précurseurs qui ont compris l'importance de protéger cette région et espérons que les jeunes générations d'aujourd'hui qui seront en situation de prendre des décisions en 2070 voudront toujours protéger cette région.
Merci à vous Valérie Masson-Delmotte. Allez, en 30 secondes, Lorraine Lavocat, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur reporter.net cette semaine?
Alors cette semaine, on vous propose d'aller voir Radio Bambou, qui est le magazine bimensuel de reporter pour les enfants de 7 à 77 ans. Et cette semaine, on va voir les araignées, puisque savez-vous, un Français sur 4 a peur de cet ouais, animal.
J'aurais dit même plus. Moi, vous voyez. Merci à vous, Lorraine Lavocat. C'est à découvrir donc sur reporter.net. Et Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le centre de santé de l'Idaho aux États-Unis a annoncé la semaine dernière un cas de peste bubonique chez un enfant, une maladie qui n'avait pas été détectée depuis 26 ans. Connue en Europe sous le nom de peste noire, l'épidémie avait été particulièrement ravageuse au XIVe siècle en provoquant la disparition de plus d'un tiers de la population. Depuis, la médecine a identifié la cause, la bactérie Yersinia pestis qui se transmet principalement par les piqûres de moustiques. L'enfant en question a été traité aux antibiotiques et recouvre petit à petit la santé, le risque de décès étant largement réduit. Dans la nature, le bleu n'est pas toujours synonyme de calme. Une équipe franco-australienne a révélé le secret étonnant du lézard australien du genre Tilica. Pour se défendre face aux prédateurs, l'animal déploie sa langue bleue de 10 cm afin de les effrayer. Les couleurs ultraviolettes que perçoivent alors ses assaillants enclenchent chez eux une surcharge sensorielle qui les dissuade d'attaquer. N'essayez pas pour autant de tirer la langue à vos agresseurs. Sans les ultraviolets, il y a peu de chances que l'effet de surprise suffise à les faire fuir. Les paroles de Stephen Hawking nous avaient touchés de son vivant. Eh bien, elles continueront de résonner dans l'univers. En hommage au célèbre physicien anglais qui nous a quittés le 14 mars dernier, une bande-son de sa voix, recomposée en musique par le compositeur Vangelis, sera envoyée dans l'espace vers le trou noir le plus proche de la Terre. Un geste symbolique pour ce scientifique de renom qui a consacré sa vie à la compréhension de l'univers et plus particulièrement à celle des trous noirs. Dans un instant, on part à la découverte des poisons dans la tête au carré. Smile is so Reflections on the Screen, super organisme sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Et la tête au carré s'intéresse au poison en compagnie de Bruno Mégarban, médecin spécialisé en toxicologie. Il exerce dans le service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Également avec nous, Éric Birloez, ingénieur agronome, spécialiste de l'histoire de l'alimentation et auteur de « Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs » aux éditions Ouest-France. Éric Birloez, le premier emploi par l'homme de substances toxiques a sûrement été pour la chasse. Déjà, nos ancêtres, les hommes préhistoriques, devaient savoir utiliser certains poisons.
Oui, très probablement. Donc, il leur suffisait finalement d'enduire la pointe de leur sagaie ou la pointe de leur flèche de substances qu'ils avaient identifiées, souvent à leurs dépens, comme étant des substances toxiques. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que le poison, c'est quelque chose qui est ambivalent. C'est-à-dire qu'une même substance, elle peut évidemment être mortelle à forte dose ou en fonction du mode d'administration, mais dans certains cas, à faible dose, elle est non seulement inoffensive, mais bénéfique. Et on pense que les hommes préhistoriques s'étaient rendu compte, par exemple, de l'intérêt que pouvait avoir l'écorce du saule contre les maux de tête. Et on sait aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique extrait l'acide acétyl salicylique, le principe actif de l'aspirine, de l'écorce de saule. Mais le saule, l'écorce de saule, à haute dose, comme beaucoup de plantes, est extrêmement toxique. Donc, il y avait probablement aussi cet usage du poison comme remède.
Alors aujourd'hui, on utilise aussi encore comme remède certains de ces poisons et aussi encore comme poison dans certaines tribus. On chasse encore avec des flèches empoisonnées.
Comme beaucoup de tribus amazoniennes, les Métis utilisent des sarbacanes avec des flèches empoisonnées. La substance paralysante injectée à ces deux oiseaux, le fameux curare, est extraite de l'écorce de certaines lianes. La première étape consiste à faire bouillir l'écorce avec des feuilles pour concentrer le poison et lui donner son effet foudroyant.
Extrait du documentaire « Luxuriante Amazonie » diffusé sur Arte en 2012. Bruno Mégarban, s'est composé de quoi le curare ?
Alors, le curare, tel qu'il était utilisé par ces tribus, c'est un mélange probablement de substances dérivées de lianes, mais qui contient un composé qui a la propriété de paralyser les muscles, c'est-à-dire de couper la conduction nerveuse entre le nerf moteur et le muscle, ce qui entraîne un relâchement des muscles, et donc évidemment une paralysie générale de la proie, et également une paralysie des muscles respiratoires, donc à l'origine d'une asphyxie, donc d'une mort rapide. Mmh. Alors, il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, on utilise toujours des médicaments.
Eh oui.
Analogue au curare.
Ça revient à ce que
dans les blocs opératoires,
Éric Birloez à l'instant. Le curare aussi, bien dosé, bien utilisé, ça peut servir
tout
à soigner.
Tout à fait. Alors, évidemment, ça n'est plus la molécule initiale extraite des lianes que l'on utilise, mais des molécules de synthèse, mais qui ont le même principe actif, évidemment que l'on connaît parfaitement, dont on connaît les risques, et utilisé à dose adaptée au bloc opératoire, elles sont indispensables pour permettre l'intervention chirurgicale. Le chirurgien a besoin d'une relaxation totale des muscles pour pouvoir inciser et opérer. Évidemment, les curares doivent toujours être administrés en parallèle à une sédation et une analgésie pour permettre l'intervention chirurgicale.
Et comment se fait-il que l'on ne s'empoisonne pas en mangeant un animal qui a été chassé, tué avec une flèche imprégnée de curare ?
Alors, certaines de ces substances peuvent ne pas être absorbables par le tube digestif ou être détruites par l'estomac, puisque dans l'estomac, on a une acidité très importante qui fait que un certain nombre de produits végétaux sont neutralisés et donc deviennent inactifs.
Éric Birloez, ces produits, ces poisons que l'on trouve dans la nature, pourquoi ils s'y trouvent dans la nature ? Pourquoi le monde vivant a besoin de produire tous ces produits toxiques ?
Alors, il y a deux raisons, en fait. C'est pour la survie, c'est-à-dire que certains animaux et certaines plantes également vont synthétiser des poisons pour éviter tout simplement d'être mangés par des prédateurs. Et puis il y a aussi le caractère venimeux de certains animaux où là, ils vont utiliser le poison pour paralyser, voire tuer leur proie. Donc ça, c'est le cas des serpents, des araignées, des scorpions, exactement. Donc c'est à la fois pour se défendre d'un agresseur, mais ça peut être également pour se nourrir en ayant une arme de chasse en quelque sorte.
Et ce dont on s'aperçoit en lisant votre livre, Histoire des poisons, chez West France, Éric Birloez, c'est que ce sont avant tout les plantes hein, qui sont toxiques. On trouve plus de plantes qui peuvent être potentiellement mortelles que d'animaux.
Oui, alors en nombre d'espèces, c'est clair. Il y a plusieurs milliers de plantes qui sont potentiellement toxiques. Là encore, à forte dose et en fonction de leur mode d'administration, mais il y a quand même pas mal d'animaux qui le sont également. Donc là, on évoquait les serpents, les araignées, mais il y a aussi des méduses, il y a aussi des poissons. Ouais, il y a également des micro-organismes, des bactéries qui produisent des toxines extrêmement virulentes. Il y a le monde des champignons également, qui est un pourvoyeur de poison. Et puis dans la nature, on va trouver également, bien sûr, le mercure, l'arsenic, l'antimoine, le plomb, qui eux sont des poisons minéraux également très violents.
Alors, on y reviendra à toutes ces formes de poisons, mais restons un peu sur les plantes. Quelques exemples de plantes toxiques que vous citez avec des noms évocateurs, évidemment, dans votre livre. La belladone, la mandragore, la belladone. Parlez-nous de la belladone.
Alors, belladone, c'est belladonna, belle dame en italien. Pourquoi ? Parce qu'à la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, les dames de la cour, pour avoir de plus beaux yeux et être encore plus séduisantes, avaient l'habitude de presser quelques gouttes dans leurs yeux, de presser quelques gouttes d'une préparation à base de belladone. Et cela dilatait la pupille et les ophtalmos, il n'y a pas si longtemps, utilisaient également des principes actifs extraits de la belladone, notamment la tropine, qui permettait la dilatation de la pupille et donc l'examen. Alors la belladone, elle a aussi évidemment des pouvoirs mortels à forte dose et également des pouvoirs hallucinatoires, comme d'autres plantes qui étaient utilisées par les sorcières du Moyen-Âge pour avoir des hallucinations. Donc il y a la belladone, il y a la mandragore, etc.
Bruno Mégarban.
Alors la tropine est toujours utilisée en médecine. C'est un médicament fondamental pour les ophtalmos toujours, pour pouvoir effectivement faire un fond d'œil en dilatant la pupille. Et en cardiologie, c'est un médicament important puisqu'il permet d'accélérer la fréquence cardiaque lorsqu'on fait un trouble du rythme cardiaque avec un ralentissement du cœur à la suite, par exemple, d'un malaise vagal. On peut parfaitement accélérer le cœur et permettre au sujet de retrouver sa vigilance en administrant de l'atropine. Okay. Et pour nous, évidemment, l'utilisation de doses élevées d'atropine va entraîner un risque d'hallucination et d'encéphalopathie. Et c'est un effet secondaire de ce médicament.
Ah, d'accord. L'effet hallucinogène vient, il n'est pas souhaité, mais parfois il
survient. Et à l'inverse, la dilatation de la pupille est un signe quasiment d'efficacité thérapeutique. C'est là-dessus qu'on peut mesurer que le patient en reçoit bien.
Et la fameuse ciguë, Éric Birloez, avec laquelle on a condamné à mort Socrate, et on dit qu'il a bu une potion de la ciguë.
Probablement il y avait de la ciguë, mais ce qui est intéressant quand on lit le texte de Platon qui rapporte la mort de Socrate, c'est qu'on ne voit pas vraiment tous les symptômes d'une intoxication par la ciguë, c'est-à-dire des convulsions, des douleurs atroces. La mort de Socrate, telle qu'elle est décrite par Platon, est plutôt une mort assez sereine. Finalement assez sereine. Et là, on se pose la question de savoir, est-ce que Platon a voulu laisser finalement une bonne image de la mort de son maître, Socrate, ou est-ce que, ce qui n'est pas du tout improbable, on mélangeait à la ciguë des opiacés, par exemple, qui pouvaient permettre de limiter les symptômes un peu terrifiant.
On va demander l'avis du médecin Bruno Mégarban. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que Socrate ait bu ?
Alors, effectivement, en tout cas, dans la ciguë, il existe un principe actif qu'on appelle la conine, qui effectivement entraîne. Alors, le mécanisme d'action est complexe. Alors, à la fois, ça active, mais aussi ça bloque totalement la conduction nerveuse vers le muscle. Mmh. Et donc, c'est censé entraîner, au départ, des fasciculations musculaires.
Qu'est-ce que c'est que des fasciculations?
C'est-à-dire des tremblements des muscles de façon très importante, puis une paralysie musculaire générale, un peu comme le curare. Vous voyez, quelquefois, les végétaux ont des principes d'action un peu similaires, et entraînant une paralysie générale et donc une paralysie des muscles respiratoires et donc un décès par arrêt respiratoire. Mmh. Alors, il faut savoir très probablement, cette molécule a, on va dire, un intérêt limité et les risques sont extrêmement élevés. Et au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas trouvé d'application médicale.
Celle-là, on ne se soigne pas avec. Et on en trouve en France, de ces plantes, la ciguë.
Oui, la ciguë n'est pas rare. Alors, le risque, c'est une grande ombellifère qui fait à peu près 2 mètres de haut. On peut la confondre parfois avec la carotte sauvage. Alors, la ciguë a quand même une particularité, c'est qu'elle a la tige tige qui est maculée de petites taches rouges que l'on associait autrefois au sang, conium maculatum, c'est le nom scientifique, le nom latin, maculée de petites taches rouges, et puis elle a une odeur assez désagréable quand on la froisse, mais elle est, ça n'est pas une plante aussi rare que ça.
Et oui, il y en a finalement pas mal dans notre environnement de ces plantes toxiques, vous parlez du laurier rose, colchique d'automne, l'if aussi, l'if, qui est un arbre décoratif qu'on trouve.
Mais tout à fait, on pourrait évoquer également le ricin qui est dans nos jardins publics, et si on s'avise d'ingérer des graines de ricin, alors à condition évidemment de les, pas de les avaler, mais de les mastiquer longuement, ça peut être extrêmement, c'est mortel. Donc on a aussi dans notre environnement un certain nombre de plantes, comme les jolies baies de belladone de couleur noire, qui attirent tellement les enfants, qui sont quand même toxiques, comme on l'a vu tout à l'heure.
Allez, on poursuit notre exploration du monde des poisons. Dans un instant, on va s'intéresser un peu plus précisément aux animaux venimeux et aux champignons vénéneux dans la tête au carré.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps, même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les yeux vivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les yeux vivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, 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 on n'a plus le temps.
Nous sommes, vous avez reconnu la voix de Mio Sec sur France Inter.
La tête au carré. Sur France Inter.
Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Hein?
La tête au carré.
Carré.
Sur France Inter.
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique. Deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un thé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah
bon.
Le pudding à l'arsenic concocté par deux affreux dans le dessin animé Astérix et Cléopâtre. Et on s'intéresse au poison dans cette tête au carré en compagnie du médecin toxicologue Bruno Mégarban et d'Éric Birloez, auteur de Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs aux éditions Ouest France. Et puis des questions qui arrivent déjà pour vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Le laurier rose, on en parlait à l'instant. Jean-Michel vous demande, j'en ai plusieurs dans mon jardin, j'ai appris que c'était un poison. même à très faible dose. J'ai maintenant peur d'y laisser jouer mes enfants sans surveillance. Qu'est-ce qu'il faut conseiller à Jean-Michel, Bruno Mégarban?
Alors, effectivement, le laurier rose est un poison dangereux. Il contient une molécule qui est d'ailleurs utilisée aussi en médecine. Ce sont les digitaliques, qui sont utilisés pour traiter l'arythmie cardiaque. Mais lorsqu'on ingère une certaine quantité, alors on va dire les quantités toxiques ne sont pas bien déterminées, mais lorsqu'on ingère une certaine quantité de ce laurier rose, on peut parfaitement s'exposer à un risque grave cardiaque qui peut mener au décès.
D'accord, donc je ne suis pas sûr du tout que vous rassuriez Jean-Michel avec ce que vous êtes en train de
dire. Je
dirais
il faut être très prudent, effectivement, et ne pas laisser ces plantes à portée d'enfants.
Donc,
ça, c'est certain.
Vous conseillez d'abattre le laurier s'il veut envoyer ses enfants dans le jardin?
Je conseille d'être prudent sans abattre l'arbre, mais en tout cas de s'assurer que l'enfant ne mette pas à bouche les fleurs de ce laurier rose.
Ça n'est pas à prendre à la légère. Alors on a surtout parlé des plantes toxiques dans cette émission, mais Eric Berloez, vous l'avez dit tout à l'heure, certains animaux sécrètent des toxines particulièrement puissantes. Quelques animaux redoutables en la matière, des exemples?
Alors il y a ce qui me vient à l'esprit, c'est le célèbre fougou qui est le tétrodon ou le poisson globe, c'est la roulette russe des Japonais, donc c'est un poisson qui contient, qui sécrète un poison qui peut bien sûr occasionner la mort. Mmh. Et donc on ne peut le manger que dans des restaurants japonais extrêmement surveillés par l'État.
Et les Japonais en sont très friands du fougou.
En japonais, il se nomme fougou. C'est un poisson bizarre. Il cligne des paupières, il n'a pas d'écailles, quand il a peur, il se gonfle. Il a surtout une particularité redoutable. Il contient de la tétratoxine, un poison foudroyant. Sa chair est pourtant si délicieuse que les gourmets japonais, au péril de leur vie, ont sacré le fougou mortel, roi des poissons.
S'il y a des morts? Oui, parfois il y a des morts. Mais quand on mange, on n'y pense pas. C'est tellement bon.
Le fougou a un goût discret, délicat. Il y a énormément de variétés. Et on peut le déguster de différentes façons. C'est ce qui me fait aimer le fougou.
Bruno Mégarban, pas de cas d'intoxication par le poisson fougou en France, rassurez-nous.
Alors non, en France métropolitaine non, mais très récemment, il y a quelques années, il y a eu une famille de personnes qui ont été intoxiquées à la Réunion. Ouais. C'est un poisson qui existe dans l'océan à côté. Et effectivement, il faut être extrêmement prudent et ne pas consommer des poissons vendus de façon... on va dire libre, sans être sûr de l'origine, en tout cas de la nature de ce poisson. Mmh. Alors oui, c'est la tétradotoxine est une toxine extrêmement dangereuse. En fait, elle bloque ce qu'on appelle le canal sodique, c'est-à-dire un canal qui est nécessaire à la conduction de l'influx électrique sur l'ensemble des cellules, notamment l'influx nerveux, mais également l'influx qui va permettre le fonctionnement du cœur. Et donc, malheureusement, très rapidement, on peut avoir un décès en une vingtaine de minutes après une paralysie générale et des difficultés respiratoires.
Ouais, incroyable que malgré un tel risque, on continue à consommer ce poisson de façon très réglementée, mais au Japon, on continue de le manger.
Oui, absolument, mais c'est le goût du risque. Alors autrefois, le cuisinier qui avait préparé un fougou qui avait tué l'un de ses convives était exécuté. Donc là, on ne tortillait pas, c'était la peine capitale immédiatement.
D'accord. Donc deux morts à la fois, la victime du poisson qui avait été mal coupé et le mauvais coupeur.
C'est extrêmement difficile de découper ce poisson d'une manière, parce qu'évidemment le poison n'est pas visible.
Oui, je crois même que le poison se trouve dans la peau, dans les viscères et particulièrement dans les ovaires chez les poissons femelles.
Et comment expliquer que l'animal en lui-même ne soit pas intoxiqué par son propre poison? Lui, il est immunisé.
Immunisé, c'est un mauvais terme, mais très probablement, le poison est dans des structures qui ne le mettent pas en contact avec les récepteurs sur lesquels il doit agir.
Alors, vous parlez aussi dans votre livre, Eric Berloez, du serpent le plus venimeux du monde, le taïpan du désert. Il est absolument redoutable, celui-là.
Oui, alors ça, c'est un serpent. Alors, heureusement, on ne le rencontre pas tous les jours. Il vit dans le désert australien, au centre de l'Australie. C'est un grand serpent qui mesure 2 mètres de haut. Et on a calculé qu'il serait capable de faire périr une centaine de personnes. Alors fort heureusement, on a peu de chances de le rencontrer. Et si on le rencontre, ça n'est pas un serpent qui est extrêmement agressif, à condition évidemment de ne pas l'embêter.
D'accord, ah oui, il reste magnanime malgré
relativement
le pouvoir qu'il a. Quelle différence, nous demande Romain sur la page de l'émission, quelle différence entre les organismes venimeux et les organismes vénéneux ?
Alors, venimeux, c'est un qualificatif qu'on va utiliser pour désigner les animaux qui vont utiliser de manière active le poison. Donc, on l'a vu, c'est pour se défendre de leurs prédateurs ou pour tuer ou paralyser leur proie. Et donc, ce sont des poisons qu'ils vont synthétiser dans des glandes, qu'ils vont ensuite injecter avec un dard, avec des crochets, dans le cas des serpents, avec des aiguillons, avec un dard, etc. On parlera de vénéneux dans le cas de végétaux, champignons vénéneux ou plantes vénéneuses, où là, la plante ne va pas délibérément injecter, bien évidemment, son poison.
C'est son organisme qui est toxique quand on consomme l'animal ou la plante.
Des petites chenilles, des petites... des animaux peuvent être venimeux, peuvent être également vénéneux. On a par exemple des petites chenilles qui vont consommer des plantes riches en alcaloïdes, qui vont stocker ces substances toxiques et ça les protège des prédateurs. Elles deviennent, sans être elles-mêmes touchées par le poison, elles deviennent dangereuses pour les oiseaux, par exemple.
Bruno Mégarban.
Alors oui, effectivement, on discute essentiellement de poisons neurotoxiques.
Ouais.
Mais il faut savoir que dans le règne animal, il y a des tas de poisons qui ont d'autres mécanismes d'action, qui n'agissent pas nécessairement sur le système nerveux. Alors, ne serait-ce que dans le règne des serpents, on a des serpents, c'est le cas des vipères, qui peuvent administrer des substances qui entraînent soit une coagulation du sang, soit un syndrome hémorragique. Et donc, évidemment, le but, c'est de faire saigner ou d'empêcher la circulation du sang dans la proie pour que celle-ci décède et que le serpent puisse la dévorer. Et chez l'homme mordu par une vipère, on va avoir ce type de réaction de thrombose extensive à partir du site de la morsure.
Donc thrombose, c'est le vaisseau qui se bouche.
Le vaisseau qui se bouche, le sang qui coagule et le caillot qui se prolonge et qui peut entraîner, bien sûr, des réactions graves du milieu intérieur.
Alors, puisque les mécanismes d'action de ces différents poisons ne sont pas les mêmes, quels sont les bons gestes à avoir dans chacun des cas? C'est-à-dire, quand je suis mordu par un serpent, est-ce qu'il ne faut pas réagir de la même façon selon le type de venin qu'il m'a injecté?
Alors, je dirais, pour le non-spécialiste, le plus simple, en fait, à la suite d'une morsure d'un animal ou de l'ingestion accidentelle d'une plante, bien, c'est tout d'abord de contacter le centre antipoison et, bien sûr, de décrire au mieux, voire de prendre une photographie. Alors, maintenant, c'est facile avec les téléphones portables, de la plante ou de l'animal supposé avoir mordu, afin qu'un spécialiste de l'autre côté du téléphone puisse faire un diagnostic précis. Et ensuite, évidemment, indique la consultation dans un service d'urgence spécialisé ou, si les choses sont déjà très graves, un transfert par moyen du SAMU vers un centre de réanimation spécialisé comme le nôtre à l'hôpital La Riboisière.
La consigne est la même pour les champignons vénéneux?
La consigne est la même, je dirais, effectivement. Alors, pour les champignons, on peut aussi aller voir son pharmacien. Les pharmaciens d'officine ont parfois une très bonne culture concernant les champignons. Ils peuvent être capables d'identifier les champignons.
Si on a encore un spécimen du champignon incriminé. Quels sont les champignons, d'ailleurs, les plus meurtriers en France, Eric Birloise?
Certains champignons, pas tous, de la famille des amanites, phalloïdes, tumouches, etc. Alors, il y a les champignons qui sont visibles, mais il faut aussi parler de ces champignons qui sont microscopiques. Et évidemment, on ne les voit pas et c'est bien là tout le problème. Ouais. Et on sait par exemple que dans l'histoire des hommes, en Europe par exemple, un des grands fléaux du Moyen-Âge, c'était l'ergot de seigle, qui est un microscopique champignon.
C'est de la moisissure en quelque sorte, cet ergot de
seigle. Et donc qui parasite le seigle, mais également d'autres céréales. Et le problème, c'est que quand on l'ingère, on a des symptômes qui sont tout à fait impressionnants. D'ailleurs, cette maladie, on l'appelait le mal des ardents, la peste de feu, le feu de Saint-Antoine. Pourquoi? Parce que l'individu était pris de fortes fièvres et on avait l'impression que ses pieds et ses mains noircissaient comme s'ils étaient consumés par le feu.
Ah oui.
D'où le nom. Et en fait, c'est lié à une mycotoxine produite donc par ce champignon microscopique.
Une micro-réaction.
Oui, tout à fait. C'est cette mycotoxine ergoline est à l'origine en fait d'une constriction des vaisseaux. Et là aussi, c'est à l'origine de ce qu'on appelle l'ergotisme. Et cette substance a permis la synthèse de nombreux médicaments. Et donc, notamment pour le traitement de la migraine, où il y a un problème de, souvent de régulation des vaisseaux. Et l'un des médicaments utilisés jusqu'à très récemment et le plus important pour le traitement de la migraine est à base de ce dérivé.
Et après tout, le LSD.
Et le LSD, et oui,
qui est un dérivé de l'ergotamine. Ouais.
Tout à fait, qui n'est pas un médicament, mais qui n'est
pas
un médicament.
Pour aujourd'hui, se soigner, de rien. Allez, après tout ça, vous reprendrez bien un peu d'arsenic et de polonium. On revient sur quelques empoisonnements célèbres dans la tête au carré.
J'étais encore un enfant quand on s'est rencontré. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où je t'ai roulé ma première galoche, tu m'as tapé dans l'œil avant que je t'aie dans la poche. Depuis, ma vie se résume à une course poursuite. Chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi pourquoi tu prends la fuite. Avec toi ça va, ça vient, sans toi je suis un vaurien. En avoir pour son toit j'aimerais tant. D'ailleurs le temps c'est du toit. Du chagrin j'ai les gros sur la patate. Je croque de toi sauf quand tu craques. J'ai les bourses qui se rétractent. Ta courbe croissante m'enchante. Mais ta chute de rein me donne des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu connais pas de frontières. Tu parles toutes les langues et sais briser les barrières. Snob, la pauvreté te fait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur. Tu me fais pas de bonheur, procure du plaisir. Mais plus je te désire et plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver les rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache, je finirai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser? Ne me quitte pas, il est paraît-il de placement fertile. Donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi. Et même si ce domaine existe déjà, imprévisible, soudain visible, d'autres t'ont pris pour cible. Reviens dans mes bras, pour toi je serai crédible. Au bal je t'ai invité à ma table. Et tu m'as snobé pour aller danser avec un notable. Pendant que je me faisais biaiser, d'autres avaient déjà appris à savoir léser. Au début j'étais rongé par la jalousie. Et puis j'ai bien vite compris que tu ne ferais jamais le bonheur d'autrui. Toutes ces formes font rêver mais dans le fond y'a rien. Un palpable liquide tu fonds dans leurs mains. À peine ils tombent tu lormes déjà sur les voisins. Tu les rends possessifs, jaloux, radins et mécanismes. T'es parti à la conquête du monde entier. Et le monde entier a succombé à tes charmes de papier. Aujourd'hui le monde entier est à tes pieds. Mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette. Mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Donne le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. T'as eu tous les hommes à tes pieds. Mais le seul amant qui t'est manqué, c'est la liberté.
C'était Pépette de Java, la programmation musicale de La Tête au Carré est signée Thierry Dupin.
La Tête au Carré.
Ce serpent est digne d'une reine et d'une déesse. Pose-le là à la pliure du bras sur la veine.
J'espère que cela sera réglé en peu de temps.
Au contraire, cela peut être extrêmement long. Sans compter que cela n'est pas non plus sans douleur.
Je n'ai pas peur de la douleur. Mais ce que je n'ai pas, c'est le temps.
Alors faites-le à la manière des philosophes. Une boisson à base de ciguë et d'aconite mélangée avec un peu d'opium pour adoucir la douleur.
Faites partout savoir
que Cléopâtre, par la morsure d'un cobra, vient de quitter ce monde pour la vie éternelle, comme il sied à la reine d'Égypte.
Extrait du docu-fiction « Les femmes qui ont fait l'histoire » consacré à Cléopâtre, diffusé sur Arte. Éric Birloez, le suicide de Cléopâtre par empoisonnement avec le venin d'un serpent. Vous racontez cette histoire dans votre livre « Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs » chez Ouest France. Alors cette histoire-là, c'est peut-être aussi un peu une légende.
Oui, mais c'est pas non plus complètement improbable. Ce que l'on pense à peu près certain, c'est que Cléopâtre s'est suicidée. Elle s'est quand même probablement empoisonnée. Alors c'est peut-être pas la morsure d'un serpent, mais peut-être du poison qu'elle aurait fait apporter dans une épingle à cheveux ou un peigne creux. En tout cas, si elle a utilisé le serpent, ça n'est pas, ça c'est sûr, c'est une légende, en faisant expérimenter l'effet de cette morsure de serpent sur des condamnés à mort ou des esclaves.
Parce que c'est ce qu'on raconte.
Oui, c'est ce que l'on raconte. Et elle a pu effectivement utiliser un cobra qui donne une mort quand même assez rapide et qui, semble-t-il, ne déforme pas trop le visage de Cléopâtre. Il semble qu'elle n'y tenait pas trop. Et le cobra, parce que c'est un symbole de l'Égypte qui est présent comme ornement sur la coiffe des pharaons. C'est le symbole de la protection du royaume égyptien. Alors, c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un suicide, d'un empoisonnement volontaire. Mais dans l'histoire, il y a beaucoup d'affaires d'empoisonnement. Alors là, vraiment de meurtres, notamment à l'arsenic. Alors l'arsenic a été plus tard, si on regarde au regard de l'histoire, c'est plutôt la Renaissance.
Absolument. Les premiers poisons qu'on évoquait tout à l'heure étaient principalement extraits des plantes. Et puis, on a perfectionné les méthodes. Et l'arsenic, à partir de la Renaissance, et notamment en Italie, et entre autres par le fameux pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, qui était un grand utilisateur de la cantarella, qui était une préparation à base d'arsenic qu'il utilisait pour éliminer ses rivaux, également les cardinaux, parce qu'il héritait en tant que pape de la fortune de ses cardinaux.
Et alors, vous parlez d'une drôle d'histoire à propos d'arsenic dans votre livre. Un village, je crois que ça se situe en Autriche, où l'on assaisonne ses aliments en saupoudrant de cristaux d'arsenic.
Voilà, où on le faisait en tout cas au milieu du 19e siècle, où un médecin autrichien observe cette pratique tout à fait étonnante, que les paysans de Styrie, c'est une région montagneuse d'Autriche, donc assaisonnent effectivement leur mets, leur boisson également de cristaux d'arsenic, et ils prétendent être en pleine forme et avoir en plus une vigueur sexuelle incroyable. Arsenikon en grec, c'est la malpuissance, c'est la virilité.
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est d'accord.
Voilà, on le déconseille. Ils en donnent d'ailleurs également à leurs chevaux, simplement parce que ces cristaux d'arsenic, ils vont les trouver sur les cheminées des fonderies. On est dans une région d'extraction des métaux. Ce que disent les spécialistes, c'est que les cristaux étaient probablement trop gros pour qu'il y ait de réels effets toxiques, mais quand même peut-être quelques effets indésirables.
Bruno Mégarban, le toxicologue que vous êtes, nous déconseille formellement d'assaisonner ces mets à l'arsenic.
Alors, on va dire, l'arsenic est un toxique cellulaire, donc il va rentrer dans la cellule d'un peu tous les organes et entraîner une impossibilité de cette cellule d'utiliser l'oxygène pour respirer et donc une mort cellulaire. Alors les cas effectivement d'empoisonnement aigu sont multiples dans l'histoire, mais je dirais beaucoup plus important et malheureusement plus dramatique, c'est l'exposition on va dire chronique accidentelle par la contamination des eaux des nappes phréatiques. Et actuellement, il faut savoir, au Bangladesh, plusieurs millions de personnes sont intoxiquées de façon chronique à l'arsenic. C'est un drame de santé publique extrêmement important, avec des conséquences sur la santé extrêmement graves.
Et là, il n'y a pas d'antidote. On ne peut pas prendre de molécules. Alors, pour se prémunir des effets de l'arsenic.
Il existe bien sûr, pour prévenir, non, mais il existe des thérapeutiques en cas d'intoxication diagnostiquée, ce qu'on appelle des chélateurs, qui vont pouvoir fixer l'arsenic et l'éliminer par voie rénale.
Aline vous demande sur Internet, une théorie historique aujourd'hui marginale voudrait que Napoléon se soit fait empoisonner à Sainte-Hélène. D'ailleurs, on parle d'arsenic dans le cas de Napoléon.
Oui, absolument.
Comment le démontrer et de quel poison s'agissait-il?
Alors effectivement, on a constaté en analysant des mèches de cheveux de Napoléon qu'il contenait jusqu'à 100 fois plus d'arsenic que la normale. Et tout de suite, on s'est dit, ce sont probablement les Anglais qui ont voulu se débarrasser de Napoléon, qui était quand même déjà à Sainte-Hélène. C'est quand même même très peu probable. On penche plutôt aujourd'hui pour une intoxication, par exemple par le bois de chauffage. L'arsenic est présent dans la nature, on vient de le voir. À Sainte-Hélène, il fait froid, il pleut souvent, on allume beaucoup de feux de cheminée. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que pour conserver les mèches de cheveux de Napoléon, eh bien, on les a fixées avec une préparation contenant de l'arsenic.
Ah, d'accord. Alors, à chaque époque, sont ces méthodes d'empoisonnement, ces poisons choisis par les empoisonneurs. Un cas beaucoup plus récent maintenant, un cas d'empoisonnement au polonium.
L'enquête a déterminé que l'opération pour tuer Litvinenko a probablement été approuvée par le chef des services secrets russes, M. Petrouchev, et par le président Poutine.
Le 1er novembre 2006, il prend le thé avec deux anciens collègues du KGB dans cet hôtel, un thé inhabituel au polonium, un produit hautement radioactif.
Mon mari a été tué par les agents de l'État russe dans le premier attentat radioactif de l'histoire, en plein Londres.
Extrait d'un reportage de France 2 diffusé en janvier 2016 sur les conclusions donc de cette enquête qui a suivi l'empoisonnement de l'agent secret Alexandre Litvinenko en 2006. C'est une histoire tout droit sortie d'un James Bond, cette histoire.
Oui, mais alors il y en a beaucoup, hein, effectivement. Donc là, c'est le polonium-210 qui est incriminé, donc un élément radioactif qui a été découvert par Marie Curie. Hein, polonium, c'était en hommage à son pays d'origine. Seule la Russie semble être le seul pays qui en produit quelques
polonium.
Dizaines de grammes, et il a été utilisé, on l'a su après l'autopsie de Litvinenko, il a été utilisé pour empoisonner cet ancien officier des services secrets russes qui mettait en cause un peu trop Vladimir Poutine dans tout un tas d'affaires.
Bruno Megarban.
Alors c'est vrai que c'est un des toxiques idéal, puisqu'en fait il peut entraîner le décès à une quantité extrêmement faible, jusqu'à 30 000 fois moins de quantité nécessaire qu'un venin de crotale, par exemple. En plus, il émet un rayonnement de type ionisant de type alpha, donc qui n'est pas détecté par les compteurs GGR habituels, et il n'est pas dangereux pour les personnes de contact. Il faut en fait que le produit soit absorbé par le tube digestif et diffuse et se distribue dans les organes de l'individu dont on souhaite le décès, pour entraîner évidemment une toxicité grave.
Alors la bonne nouvelle, c'est que si ça donne des idées à des auditeurs,
Il
n'est pas disponible et en plus ça coûte une fortune. Le New York Times a estimé à 10 millions de dollars la dose qui a servi à tuer cet agent secret. Donc a priori c'est hors de prix, mais c'est vrai que c'est un poison redoutable. Merci à vous, c'était passionnant ces discussions sur les poisons. Merci Bruno Megarban, Eric Birlouez. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs, aux éditions Ouest France. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Et merci à Antoine Teboul et Jérémy Guillon qui étaient à la technique aujourd'hui. Demain, au menu de la tête au carré, la chimie du goût avec le physico-chimiste Raphaël Aumont.